Salut à toutes et à tous, c'est Julie, vous écoutez 3 en 1 sur le 94 FM.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade phare.
Quant à vous aujourd'hui, notre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur ?
Il y a les villages.
Qui dit qu'on n'a pas de mémoire ?
L'agriculture est en train de crever. Sincèrement, toute production confondue, toute filière.
Et la rue répond !
Venir de Paris, de Lyon, de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bienvenue dans 3 en 1, votre émission d'actualité locale sur Canal B. Il est midi 15, nous sommes lundi 20 avril ou mardi 21, si vous nous écoutez en rediffusion. Si c'est le cas, bonne matinée à vous. Pour cette édition du jour, nous avons reçu Pierre Merle, sociologue spécialiste des questions scolaires et de l'invention de la note. Dans cette interview, il revient sur cette tradition d'excellence académique en France et notamment de son rôle dans le maintien de l'ordre social. En deuxième partie d'émission, Valentine, tu nous exposeras les enjeux de la stigmatisation des stupéfiants.
On est le 20 avril, date qui parlera à certaines et certains. L'occasion pour moi de revenir sur l'impact des politiques répressives successives face aux politiques de prévention.
Et on retrouvera donc ta chronique en fin d'émission.
Watch the way we drop it in a mix time it. Rise and amplifying when we coming with the swing. Just following the pattern naturally harmonizing. Climb into position we synchronized it. Live from outer ghetto we maximize it. Sound of the groove of mother we super styling.
Et c'était un retour en 2001 avec le titre Super Styling de la Groove Armada dans 3 en 1. Vous êtes toujours sur Canal B 94 FM et on enchaîne avec l'interview du jour avec le sociologue Pierre Merle qui revient sur cette tradition française d'excellence académique. D'après la conférence des grandes écoles, l'excellence académique d'une école pourrait se définir comme sa capacité à permettre à chacun de s'élever dans une voie qu'il a choisie et non dans celle qui a été tracée par d'autres. Et si cette utopie du choix était irréaliste ? La réputation prestigieuse des universités françaises place la barre haute pour les étudiants. Certains réussissent, d'autres s'autocensurent et beaucoup peinent à continuer malgré un niveau suffisant. De nombreux étudiants dénoncent une notation décourageante et inefficace dans ces établissements de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, dans 3 en 1, nous recevons Pierre Merle. Il est sociologue, professeur émérite à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Au micro de Canal B, pendant une quinzaine de minutes, il vient nous parler du rôle des notes académiques dans le maintien de l'ordre social. Pierre Merle, bonjour.
Bonjour.
Donc, le modèle d'évaluation classique en France, il se différencie un peu des autres pays européens par son barème allant de 0 à 20. Ce système de notation commence dès le collège et se poursuit tout au long de l'enseignement universitaire. Est-ce que l'attachement à cette note chiffrée, il est issu d'une tradition purement française ?
Purement française, c'est difficile à dire, faute de comparaison internationale, mais en tout cas, il y a une tradition française de la note qui remonte en fait à la fin du XVe siècle, lorsque Ignace de Loyola a créé les collèges jésuites. Son projet était de constituer une élite politique, intellectuelle et religieuse. Et pour fonder cette élite, il a conçu un système fondé sur une concurrence entre les élèves. Et il a été un inventeur de la note. En fait, plus précisément, ce n'est pas tout à fait la note, c'est d'abord le classement. C'est-à-dire qu'à chaque contrôle, tous les élèves étaient classés. Et à la fin de l'année, il y avait une moyenne de tous les classements. Les meilleurs, qu'on appelait les optimis, passaient dans la classe supérieure. Les douteux passaient dans la classe supérieure et s'ils ne réussissaient pas, on les renvoyait. Et les autres, qui étaient considérés comme des imbéciles, eh bien, ils étaient renvoyés du collège jésuite. Le but était de former des soldats de Dieu, donc une espèce d'élite au service du développement du catholicisme en France.
Et du coup, est-ce que cette manière dont a été mise en place l'école en France a un lien avec le prestige et l'excellence académique ?
Je ne trouve pas qu'il y ait un lien particulier, en fait. Je pense que ces professeurs agissent en fonction de ces traditions qui consistent à penser que le but de l'université, comme le but d'un lycée, est de sélectionner les meilleurs en éliminant des élèves qui sont des étudiants qui seraient tout à fait capables de poursuivre leurs études, par exemple, en master. Le problème se trouve également, par exemple, en médecine, où pendant très longtemps, en raison du numerus clausus, on sélectionnait les élèves jusqu'à atteindre le numerus clausus, le nombre d'élèves qui pouvaient passer en seconde année, et ont ainsi été éliminés des tas d'étudiants de très bon niveau qui auraient pu, en fait, devenir médecins. Donc c'est juste l'idée que l'élite doit être réduite. En fait, c'est le principe d'éducabilité. Il y a un certain nombre de personnes qui pensent que tous les enfants sont éducables, et il y en a qui pensent que certains sont doués, peuvent réussir, et que les autres ne sont pas doués, et donc il ne faut pas leur apprendre à lire et écrire. C'est une idée qui est très fréquente au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. On trouve des grands esprits, y compris comme Voltaire, qui disait « il est bon qu'il y ait des gueux ignorants ». Bon, c'est assez étonnant de la part de Voltaire, mais on voit bien que cette idée qu'il faut réduire l'élite, c'est une vieille idée qui consiste finalement, pour l'élite, à rester restreinte pour ne pas partager les privilèges qui sont associés à l'élite.
Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire de ces élèves qui sortent aujourd'hui de ces licences exigeantes ? Est-ce que ça veut dire qu'ils font partie d'une élite ? Qu'est-ce que ça veut dire d'eux, en fait ?
Cela signifie pour eux qu'ils vont pouvoir continuer en master, ce qui évidemment est très bien pour eux, mais la conséquence de cette sélection parfois excessive dans certaines universités ou grandes écoles aboutit finalement à ne pas permettre à un certain nombre d'étudiants de poursuivre des études qu'ils auraient pu poursuivre. Donc on voit bien que la réduction de l'élite a pour conséquence le fait d'accéder, de ne pas permettre à certains étudiants d'accéder à des statuts auxquels ils pourraient prétendre. Aujourd'hui, il y a une proportion importante d'étudiants qui sont licenciés, qui ont un master, et le nombre de postes de cadres n'a pas augmenté aussi rapidement que le nombre d'étudiants qui sont diplômés. Si bien qu'on assiste à ce que l'on appelle une inflation des diplômes, et donc il y a des personnes qui ont des licences ou des masters qui n'ont plus la possibilité d'accéder à des postes de cadre et qui se retrouvent dans des postes de profession intermédiaire, voire d'employés. Donc il y a un peu un déclassement des diplômés liés à cette inflation du diplôme.
Mais si sur le marché, le diplôme est en surreprésentation et tend à être déclassé, notamment pour les licences et les masters, pourquoi est-ce que les étudiants sont-ils toujours poussés à continuer vers des études longues ?
Alors, je crois que la France a une culture particulière du diplôme et des études. Et cette culture particulière, elle vient notamment des concours. C'est aussi ce qui explique la place de la note dans tout notre système scolaire. Cette invention bien française a abouti à développer des pratiques de notation dès le primaire et à l'idée que pour rentrer dans la fonction publique, eh bien, pour rentrer cadre, il fallait au minimum une licence, etc. Et donc ce système a amené les étudiants à développer leur niveau d'études. On peut penser que le système serait plus efficace avec moins de diplômes peut-être et plus de stages qui permettraient aux étudiants de rentrer plus facilement peut-être dans la vie professionnelle et aussi peut-être de mieux faire correspondre, mais c'est une idée qui n'est pas du tout partagée par tout le monde, de mieux faire correspondre ce que les entreprises attendent, par exemple, et ce qui est enseigné à l'université, parce qu'il y a souvent ou parfois un décalage important.
Par rapport à ces concours, justement, ils se présentent sous forme d'examens propres à chaque école, avec souvent la rédaction d'une lettre de motivation. Est-ce que cette manière d'intégrer l'enseignement supérieur, elle serait plus juste, entre guillemets, qu'un algorithme qui compare les notes comme celui de Parcoursup ?
Alors, pourquoi le concours s'est installé en France ? Parce que finalement, c'est encore la méthode la plus juste de sélectionner les élèves. Lorsque des lettres de motivation sont écrites, les étudiants qui disposent de la compétence de leurs parents, qui connaissent l'enseignement supérieur, qui savent comment on peut écrire de façon la plus judicieuse possible des lettres de motivation, évidemment aident leurs enfants. Et donc, je pense que la lettre de motivation n'est pas satisfaisante comme mode de sélection. La sélection qui est basée sur les notes pendant l'année, par exemple pour ceux qui postulent en première année sur Parcoursup, c'est un mode de sélection extrêmement contestable parce que les notes sont très différentes d'un professeur à l'autre. Lorsqu'on fait noter la même copie par 50 professeurs, on a une courbe de Gauss. On a des notes qui vont de 5 à 15. Donc les notes sont très différentes selon les professeurs et aussi sont très différentes selon les établissements parce qu'il y a des établissements qui notent plus sévèrement que d'autres. En gros, les grands lycées notent plus sévèrement que les lycées de banlieue. Et donc on arrive à un système très curieux où on va différencier des élèves qui ont 12-541 par rapport à des élèves qui ont 12-540, ce qui n'a strictement aucun sens. Il y a une espèce de valorisation incroyable de la précision statistique, une précision qui est totalement douteuse en fait, qui ne correspond strictement à rien. Donc on est sur un système qui est à mon sens extrêmement contestable.
un titre issu de la collaboration entre le groupe de groove psychédélique Sababa 5 et la chanteuse et danseuse orientale Yurika. Vous écoutez toujours 3 en 1 sur le 94 FM et on retourne en plateau avec Pierre Merle, sociologue spécialiste des questions scolaires, qui s'exprime sur les enjeux du système de notation en France. Mais justement, ces notes sur un bulletin scolaire ne sont pas concrètement représentatives des compétences acquises par les élèves, alors que dans l'enseignement primaire et élémentaire, les professeurs, eux, utilisent dorénavant des codes couleurs pour souligner les compétences. Est-ce qu'un système comme celui-ci serait envisageable dans les universités et dans les lycées ?
Appliquer ce système pour l'université, ce serait possible dans la mesure où le principe de l'université est avant tout de sélectionner au fond les élèves qui sont les meilleurs, c'est-à-dire ils sont mis sous une contrainte qui est de maîtriser un certain nombre de compétences dans une année, sinon ils sont dans l'obligation de redoubler. Finalement, si il n'y a pas une sélection à l'entrée importante, cette sélection elle se fait en cours d'année par l'échec en quelque sorte. Il faut bien comprendre que effectivement il y a une inflation des diplômes. Qu'il y a un certain nombre d'étudiants qui font de longues études, qui sont coûteuses, pour après se retrouver un peu déclassés sur le marché du travail. Donc il y a un coût pour la collectivité, il y a un coût humain pour les étudiants qui ont investi dans leurs études, qui ont fait des petits boulots à côté, et après qui finalement sont déçus parce que la valeur de leur diplôme est inférieure à celle qu'ils pensaient pouvoir monnayer en quelque sorte sur le marché du travail. Donc à un moment, il faut bien que le système soit sélectif, et au fond, je dirais que jusqu'à la troisième, il n'y a aucune raison que le système soit sélectif, puisque l'objectif, c'est la scolarité pour tous à 16 ans, avec la maîtrise d'un certain nombre de compétences qui sont définies dans le socle commun de compétences de connaissances et de culture. En lycée, il y a des orientations très différenciées selon les notes. Et puis au niveau de l'enseignement supérieur, il y a un système sélectif qui permet en fait de sélectionner ceux qu'on peut considérer les meilleurs. Mais il faudrait que les exigences soient mieux identifiées au niveau de l'ensemble des universités, chacune aujourd'hui, en fonction des professeurs, au fond, sélectionne de façon plus ou moins sévère, ce qui pose un peu un problème de justice, en fait, pour les étudiants.
Mais est-ce que, du coup, cette poursuite pour avoir un diplôme, est-ce qu'elle est encore, elle fait encore sens aujourd'hui en France, du coup ?
Alors, dans les statistiques, oui. Parce que, de fait, un élève qui a une licence va trouver plus facilement un métier qualifié qu'un élève sur les mêmes types de disciplines qu'un élève qui n'a qu'un DUG. Et un élève qui a un master va beaucoup plus souvent trouver un poste de cadre A qu'un élève qui a une licence. Donc en fait, la logique des étudiants qui est de se dire « il faut que j'ai une licence, il faut que j'ai un master », c'est une logique qui est économiquement pertinente. Donc il faut bien comprendre que les étudiants, finalement, du point de vue de leur insertion sur le marché du travail et de la rémunération qu'ils peuvent obtenir, ont raison d'avoir ce type de comportement, puisque, de fait, les entreprises veulent que les étudiants fassent des stages, mais vont davantage rémunérer, et c'est des conventions collectives, les étudiants qui ont un master par rapport aux étudiants qui ont une licence, une L3, ou par rapport aux étudiants qui ont un DUG. Donc il faut bien voir que il y a à la fois une critique du diplôme, mais dans l'organisation du marché du travail, ce sont quand même les plus diplômés qui obtiennent les meilleurs postes. Mais quand on observe les insertions, on est un peu surpris de voir que finalement, une licence en lettres, c'est-à-dire la capacité à savoir écrire, à synthétiser des documents, a une valeur beaucoup plus importante que ce qu'on l'on dit parfois, en fait. Il y a une hiérarchie officielle des valeurs des disciplines qui ne correspond pas aux hiérarchies effectives sur le marché du travail.
Et cette manière d'évaluer les étudiants dans le reste de l'Europe, c'est pas la même chose. En Allemagne, du coup, ils notent de 1 à 6. Donc 1 étant le meilleur, 6 étant la non-acquisition. Est-ce que c'est des systèmes desquels on pourrait s'inspirer ? Est-ce que c'est des systèmes qui ont des qualités qui serait plus pertinente pardon, pour évaluer les élèves.
Oui, alors en France, on a un système de, zéro, de notation de 0 à 20 au niveau du collège et du lycée. En Allemagne, on a un système de 1 à 6. Avec, bon, 1 c'est excellent, 6 c'est nul, et donc le 6 est rarement donné, et généralement, quand la copie est un peu ratée, c'est plutôt 5. Et la note moyenne, c'est 4. Ce système est beaucoup plus judicieux par rapport au système français. Système français, quand un élève fait son premier devoir et qu'il a 2 sur 20, il comprend tout de suite qu'il n'aura jamais 18. Et c'est une note qui est particulièrement décourageante. En Allemagne, un élève qui va rater sa copie en maths, bon, il n'aura pas tout raté, donc il va avoir la note 5. C'est pas une très bonne note, mais un 5, ça peut se rattraper. Si l'élève il a 2-4, il a quasiment 4. Et donc, l'élève peut se rattraper. Ce ne sont pas des notes qui sont dévalorisantes et décourageantes.
Mais dans le fond, qu'est-ce qui diffère le système de notation française de celui allemand ?
Le système d'évaluation française, c'est ce qu'on appelle une évaluation sommative et une évaluation sélective. C'est-à-dire qui consiste toujours, c'est la tradition du collège jésuite. C'est une tradition qui consiste à classer et à noter les élèves. Et on sait de surcroît que lorsque un prof commence à mettre 6 ou 7 sur 20 à un élève, même si cet élève progresse, le prof a un peu catalogué l'élève comme un élève assez faible et il ne change pas de note. Donc si l'élève se fait aider par ses parents, même des parents très compétents, eh bien la note risque de ne pas augmenter. Donc on voit bien à quel point c'est l'image que l'élève finit par avoir en termes de compétences scolaires qui joue. Et même, il y a des expériences plus étonnantes, c'est des professeurs de maths qui font des corrigés de devoirs de quatrième. Et ces devoirs de quatrième, après, sont présentés comme des devoirs d'élèves et sont corrigés par d'autres professeurs de maths. Et ces corrigés de professeurs de maths obtiennent des notes parfois assez moyennes. Donc on voit à quel point une discipline comme les mathématiques est considérée comme très rigoureuse. Fait l'objet de notations très diverses selon l'information que l'on a sur celui qui a rédigé le devoir. Donc vous voyez, les informations que l'on a sur l'élève influencent la notation que l'on va donner à l'élève. Bon. Et c'est pareil aussi pour les étudiants. C'est ce qui fait qu'un étudiant qui vient d'un lycée prestigieux, eh bien on va le considérer comme meilleur qu'un étudiant qui vient d'un lycée de banlieue. Alors que dans les lycées prestigieux, il y a des élèves qui sont moyens et dans des lycées de banlieue, il y a aussi d'excellents élèves.
Merci beaucoup Pierre Merle d'être venu sur le plateau de 3 en 1. Je le rappelle, vous êtes sociologue, professeur émérite à l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation. Aujourd'hui, Julie, on est le 20 avril, le 80, une date qui fait sourire et qui circule pas mal sur les réseaux parce qu'elle évoque le cannabis, la détente et parfois la fête. Mais si on gratte un petit peu derrière l'image, il y a une autre réalité et celle-ci, elle est beaucoup plus politique. En France, consommer du cannabis reste un délit, 200 euros d'amende, une inscription dans les fichiers et des contrôles massifs. Une politique parmi les plus répressives d'Europe. Et pourtant, et c'est là que ça coince, la France reste aussi l'un des pays où l'on consomme le plus. Les chiffres de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives sont clairs. Près d'un adulte sur deux a déjà expérimenté le cannabis. Et chez les jeunes, c'est encore plus marqué. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce paradoxe ? Eh bien, pendant que l'État verbalise, sur le terrain, des structures agissent. Technoplus, Avenir Santé, à échelle nationale, Baraka Teuf dans le 44, ou encore l'Orange Bleu en Ille-et-Vilaine. Ces assos informent et accompagnent, et elles parlent bien de dosage, de mélange, de risques réels. Des risques liés aux consommations répétées, aux polyconsommations, aux interactions entre drogue et alcool, drogue et traitements médicaux, drogue et pathologies. Elles sensibilisent aussi autour des moyens de consommer en toute sécurité, ou encore sur les risques périphériques dérivés d'un état parfois second, comme se protéger sexuellement par exemple. Ces structures sont présentes sur les terrains, en milieu festif, au plus près des concernés, et elles prennent les usagers au sérieux au lieu de les criminaliser. Là où l'État réprime, elles écoutent. Alors si la répression ne fait pas disparaître les usages, elle les déplace et elle les rend parfois plus dangereux encore. Ce glissement est lourd de sens. Aujourd'hui, la prévention repose en grande partie sur ce tissu associatif. Résultat, les pratiques changent,
elles s'adaptent et parfois, elles deviennent plus risquées. Le protoxyde d'azote, par exemple. Les ballons. Légal, pas cher, en vente libre, mais derrière des atteintes neurologiques parfois irréversibles, une banalisation qui est inquiétante chez les plus jeunes. Depuis 2020, les signalements d'intoxication liés au protoxyde sont en hausse constante selon le site santé.gouv. La kétamine aussi, longtemps marginale, aujourd'hui plus répandue, dissociative, imprévisible, avec des effets qui peuvent être violents physiquement comme psychiquement. Des drogues plus accessibles car ce sont des usages détournés de produits du quotidien, indétectables au contrôle salivaire, moins de risques donc de se faire prendre, mais plus de risques de se faire mal. L'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies le dit clairement, et je cite, « On assiste à une diversification des usages avec des substances parfois plus puissantes, plus accessibles et moins bien connues. » Autrement dit, à force de vouloir interdire, on a créé un terrain où circulent des produits et bien encore plus problématiques. Et au milieu de tout ça, il y a une génération, la Gen Z, entendez les moins de 25 ans, une génération qui grandit avec des crises à répétition, climatiques, sociales, économiques, une génération qui a accès à tout, tout de suite, y compris aux produits, une génération donc qui expérimente, parfois seule, parfois sans cadre et puis souvent sans information fiable. Alors qu'est-ce que ça dit au fond ? Eh bien que la politique actuelle est en décalage avec les réalités vécues. Alors si l'État s'enorgueillit d'avoir une jeunesse qui ne boit plus et ne fume plus, que penser d'une jeunesse qui se défonce au gaz de ballon et à l'anesthésiant pour cheval ? Eh bien peut-être que cette jeunesse ne va pas si bien que ça. Et on continue à brandir l'interdit alors que les usages évoluent plus vite que les lois. Alors on continue à sanctionner alors que les acteurs de terrain réclament des moyens pour éduquer, prévenir et accompagner. Et pendant ce temps-là, ce sont les plus vulnérables qui prennent des risques. Est-ce qu'on veut continuer une guerre aux drogues qui ne fonctionne pas ? Certains pays ont déjà testé d'autres politiques. Le Portugal, par exemple, a depuis 2001 décriminalisé l'usage de drogues pour usage personnel. Les consommateurs sont envoyés en commission de dissuasion avec des médecins, des travailleurs sociaux et non plus au tribunal. L'usage est ainsi traité comme un enjeu de santé et pas comme un délit. Résultat, une division des overdoses par 5 en 20 ans et puis surtout pas de hausse de consommation à déplorer sur le territoire. Les Pays-Bas, eux, ont cloisonné le cannabis qui a un traitement à part des drogues dites « dures ». Résultat, eh bien, il y a moins d'interactions entre les fumeurs et les autres types de stupéfiants. Les consommateurs de cannabis restent pour autant moins nombreux qu'en France. Il y a aussi la Suisse, le Canada, bref, de quoi s'inspirer. Et pourtant, on ne semble pas prêt à changer de logique, à faire confiance à la réduction des risques, à écouter les associations, à considérer enfin les usagers comme des citoyens à protéger et pas comme des délinquants à punir.
Eh bien, merci Valentine pour ces explications sur les conséquences de la répression sur la consommation des stupéfiants. 3 en 1, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Pierre Merle, sociologue spécialiste des questions scolaires, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à Valentine pour ta chronique. Vous pourrez d'ailleurs retrouver en podcast cette émission sur le site canalb.fr, comme toutes les autres éditions de 3 en 1. On se retrouve mercredi à 12h15 pour une nouvelle édition. En attendant, je vous souhaite une bonne journée sur le 94 FM.